Livre des Psaumes, chapitre 11. Psaume chapitre 11. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Alors parfois, dans notre vie, certaines circonstances peuvent amener certains vers le découragement. Ici, les circonstances qui entourent la rédaction, la composition de ce psaume de David, eh bien, sont inconnues. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. On peut émettre des hypothèses, mais sans aucune certitude. Hein, on sait qu'il a eu beaucoup de difficultés, d'épreuves dans sa vie, hein, et que des ennemis, il en a eu plusieurs. Mais on sait que à différentes occasions de la vie de David, il a pris le temps d'écrire, il a pris le temps de composer, il a pris le temps de chanter. Et c'est pour ça que nous avons ce recueil de chants que sont les psaumes, où nous voyons beaucoup de ces psaumes hein, qui nous viennent de David, qui reflètent eh bien, la vie qu'il a vécue, qui reflètent la relation qu'il a eue avec l'Éternel, qui reflètent hein, les différentes circonstances qu'il a vécues et les décisions qu'il a dû prendre dans sa vie. Ici, on voit dès le verset premier qu'il y a une question. Il y a une question par rapport à ce que certains conseillers lui auraient dit de faire. Cette question de comment est-ce que vous pouvez dire de fuir? Hein, comment pouvez-vous dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Mais ce que l'on voit ici, hein, certains pourraient dire, bon, il y a des psaumes où on le voit un peu découragé, puis reprendre de l'espoir. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est davantage hein, ce psaume de confiance, mais aussi de détermination de la part de David, que lorsqu'il y a des personnes autour de lui qui lui disent, écoute, t'as perdu, fuis. Et David, d'emblée, il remet ça en question. Comment est-ce que vous pouvez dire cela? Et David donc décide de rester ferme dans sa foi, de rester ferme dans cette lutte qu'il menait, même si nous ne la connaissons pas. Et je crois que c'est ce qui est important pour nous de retenir aussi par rapport à ce psaume, par rapport aux paroles de David, c'est que même lorsque notre propre situation, notre vie spirituelle peut sembler peut-être désespérée, hein, nous n'avons pas à céder au désespoir, mais tout comme David, eh bien de tenir ferme. Mais surtout de pouvoir discerner eh bien, ces mauvais conseils et de pouvoir éviter hein, ce piège du découragement. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes confrontés hein, dans nos luttes spirituelles parfois à ce genre de conseils. Parfois c'est notre, peut-être, je ne vais pas dire notre conscience, je pense que la plupart du temps, lorsque viennent ces paroles de découragement, je crois que c'est surtout l'adversaire qui cherche à nous rendre encore davantage inutiles. Mais je crois ici que David nous montre un exemple de comment ne pas tomber dans ce piège du découragement et de faire attention. Parce que s'il est un homme hein, qui aurait pu vraiment céder au découragement, je pense que David, avec tout ce qu'il a vécu, hein, il aurait pu céder au découragement. Comment est-ce que nous pouvons faire donc pour déjà discerner, mais aussi éviter, parfois même nous libérer du découragement qui peut affecter les chrétiens? Je crois que la première chose que nous devons comprendre dans les Écritures, dans l'exemple de David, c'est que le découragement n'est pas une fatalité. Hein, beaucoup pensent que voilà, dès qu'on tombe dans le découragement, ça nous tombe dessus, on peut rien y faire, etc. Or, les Écritures nous montrent le contraire. Les Écritures nous appellent à avoir ce discernement, de pouvoir éviter ce genre de piège-là. Mais ce n'est pas non plus, on va dire, parce qu'on tombe dans le découragement, que automatiquement ça fait de nous hein, de très mauvais chrétiens, que notre foi n'est pas bonne, etc. Dans les Écritures, on a plusieurs serviteurs de Dieu, des hommes considérés, hein, qui ont connu ces moments de découragement à un moment ou à un autre, et qui, face aux circonstances qui les accablaient, ils ont vacillé. On a l'exemple aussi de Moïse. Moïse, il n'avait pas un ministère facile. Hein, il avait face à lui un peuple qui souvent hein, s'opposait à la volonté de Dieu. Et Moïse lui-même, hein, dans le livre des Nombres, chapitre 11 et verset 15, il disait plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. C'est-à-dire qu'il appelait Dieu à mettre fin à ses jours, parce qu'il était tellement découragé de la situation, parce que par rapport à la pression qu'il subissait, par rapport à l'opposition hein, qu'il vivait, eh bien, Moïse demandait à ce que Dieu lui ôte la vie. Josué, hein, après la défaite à Haï, lui aussi, hein, il crie vers l'Éternel. Hein, Josué chapitre 7 et verset 7, il dit « Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre hein, si seulement nous avions décidé de rester hein, là où nous étions. » C'est cette mentalité que, voilà, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Pourquoi et on tombe dans ce découragement? Et notre prière à Dieu, malheureusement, c'est « tu aurais dû ». Ça aurait pas dû se passer comme cela. Au lieu de voir que, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation où peut-être j'aurais dû avoir une meilleure attitude, ou peut-être j'aurais dû mieux discerner les choses, ou de voir avec l'Éternel, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais notre penchant naturel, avec ce découragement, c'est de demander à Dieu de nous ôter, de nous retirer de là, ou bien de ôter les circonstances de notre vie. Un des exemples encore plus flagrants, hein, c'est celui d'Élie, hein, dans le premier livre des Rois au chapitre 19, hein, et qui va fuir hein, devant Jézabel et qui, en s'asseyant sous le genêt, va demander à l'Éternel la mort en disant « c'est trop, c'est trop ». Job aussi, on comprend aussi sa situation, hein, accablé par toutes ses maladies et épreuves, lui aussi hein, déclaré que son âme était dégoûtée, hein, dégoûté de la vie, et qu'il demandait à ce que l'Éternel lui reprenne cette vie. Ou même le prophète Jérémie, hein, dans Jérémie 15 et verset 10, hein, lorsqu'il crie « Malheur à moi, ma mère, car tu m'as fait naître homme de contestation et de dispute donc pour tout le pays, je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent », on a des exemples ainsi d'hommes qui, à nos yeux, étaient des hommes qui sont considérés par rapport à leur ministère, par rapport à ce qu'ils ont accompli. Et pourtant, il y a eu ces moments de découragement. Souvent, ce que nous allons reprocher par rapport à nos circonstances sont des épreuves que le Seigneur va permettre dans notre vie aussi pour nous affermir, pour nous aider à grandir. Parfois, le chemin que nous allons emprunter, c'est un chemin qui est difficile. Hein, peut-être parfois, c'est des chemins que nous ne pensions pas prendre ou nous ne voulions pas prendre, mais le Seigneur va nous laisser prendre ce chemin, nous amener à travers ces épreuves-là pour nous affermir. Parfois, c'est la difficulté de la tâche, de la responsabilité, hein, de se dire, Seigneur, ça c'est trop grand pour moi, comment est-ce que moi je pourrais faire cela? Je crois que Moïse, un peu, il avait cette perspective-là. Hein, quand le Seigneur l'appelait à amener le peuple d'Israël à sortir du pays d'Égypte, et Moïse dit « Mais comment est-ce que je vais faire ça hein, je n'ai pas le langage facile. Hein, » Et on voit quelqu'un qui est hésitant et qui craint, et on peut comprendre aussi hein, pour lui de retourner en Égypte, d'affronter hein, celui avec qui il avait grandi en plus, mais de de retourner dans ce pays-là et de prendre cette responsabilité-là. Et donc, on peut avoir toutes sortes de raisons et de situations qui peuvent nous amener au découragement, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que dans ces situations-là, le Seigneur, eh bien, veut agir dans notre vie pour nous amener, encore une fois, à grandir, à devenir matures spirituellement et d'affermir ainsi notre foi. Par contre, il est vrai que ce que nous devrions redouter, ce n'est pas l'intensité des épreuves, mais je crois que c'est plutôt l'instabilité de notre esprit, de notre cœur, la fragilité que nous avons, parce que nous réalisons que peut-être nous ne sommes pas encore là où nous devons être spirituellement parlant, et que on se dit effectivement que dans ma faiblesse actuelle, ça va être extrêmement compliqué de traverser de telles circonstances. Et c'est justement cela. C'est lorsque notre vie spirituelle elle est instable, lorsque notre esprit, notre cœur sont fragiles et instables, qu'on peut être amené à suivre la mauvaise voie, à écouter la voie du découragement et de finir par abandonner. Mais donc pour éviter ce découragement, ce piège du découragement, je crois que David nous donne des informations précieuses dans ce petit psaume, le psaume 11, et c'est surtout sa réaction par rapport à ces conseils qui lui sont donnés, le conseil de fuir dans les montagnes comme un oiseau, une situation qui, une circonstance qui est vraiment difficile, parce que voilà, il dit au verset 2, les méchants sont prêts, ils bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur droit. Il sait qu'il est entouré d'ennemis, il sait que c'est une situation qui est difficile. Mais vous aurez noté que, tout comme moi, la première chose qu'il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Et je crois que la deuxième chose que nous devons voir et comprendre ici, par rapport au découragement, c'est que nous pouvons entendre les conseillers, les différents conseils qui nous sont apportés, des conseils humains, mais on ne doit pas nécessairement les écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. De nombreux conseillers, qu'ils soient chrétiens ou non, vont chercher à nous orienter dans une direction. Ici, évidemment, ceux qui sont en train de conseiller David, c'est « prends la fuite, va vers les montagnes ». Et certains sont bien intentionnés lorsqu'ils donnent ce genre de conseil. Mais ce n'est pas la bonne intention qui fait que le conseil est bon. Ce qui va rendre un conseil qui est bon pour nous, c'est que c'est un conseil qui soit fondé sur la parole de Dieu, et c'est un conseil qui va avec la volonté de Dieu, qui se conforme à cette volonté. Alors certes, ce n'est pas toujours facile de discerner les intentions des uns et des autres, mais notre responsabilité à nous, c'est qu'on peut entendre ce qu'ils ont à nous dire, mais nous ne sommes pas dans l'obligation d'écouter, de suivre. Parce que entendre, c'est ça, c'est entendre, c'est lorsque le tympan de nos oreilles est frappé des sons d'un discours, on entend ce discours et on peut entendre le bruit. Mais entendre, c'est quelque chose qui est vraiment passif. On ne prend aucune part vraiment dans cette situation-là. La personne qui entend, elle ne fait pas particulièrement attention au son qui l'entoure. Et moi, je peux l'attester. Il y a eu des fois où ma mère me disait quelque chose, et puis je m'en vais pour faire ce qu'elle m'a dit de faire, et puis en l'espace d'une ou deux minutes, je suis là, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire encore une fois ? Il fallait que je revienne demander à ma mère, « Mais comment ça, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit ?» Donc, on peut avoir ces situations-là où on entend les conseils, mais on ne les écoute pas forcément parce qu'on ne fait pas. Et écouter, c'est vraiment cela. C'est de prêter attention, oui, à ce qui est dit, prêter attention aux instructions pour pouvoir obéir à ce qui nous est demandé, à ce qui nous est conseillé. Et lorsqu'on dit à un enfant qu'il écoute bien, eh bien, on fait justement allusion à l'obéissance. Quand on dit qu'un enfant, ben ça, c'est un enfant qui écoute bien, c'est que c'est un enfant qui a pris le temps d'entendre, mais qui aussi a pris le temps de faire ce qui lui était demandé. Et donc, écouter, ça requiert, oui, cette intention, cette volonté de la part d'une personne, eh bien, qui effectue l'action. C'est vraiment, hein, cette idée que je ne suis pas passif, mais je suis actif dans ce qu'on me dit. Et là, c'est ce que l'on voit avec David. Il entend les conseils, il les a entendus, hein, ceux qui disent fuis, fuis dans les montagnes, comme un petit oiseau, hein. Il a entendu cela, mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté parce que sa première réaction, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Et même sa question, comment pouvez-vous me dire, montre qu'il est quelque part offusqué. Il est dérangé par ce genre de conseil. À plusieurs reprises, hein, au cours de sa vie mouvementée, David s'est retrouvé dans l'adversité, s'est retrouvé dans des situations qui étaient extrêmement périlleuses, où beaucoup diraient « ça y est, c'est fini hein, », que ce soit avec Saül ou les Philistins ou avec Absalom et d'autres encore. Mais sa situation, on le voit, devenait encore plus dangereuse lorsqu'il y avait de tels conseillers qui peut-être étaient bien intentionnés, mais alors vraiment mal inspirés. Ces conseillers qui l'exhortaient à fuir. Ce conseil n'était pas seulement mauvais, c'est aussi un conseil qui allait pousser David à être humilié, hein, d'être contraint à fuir comme un oiseau. David, il savait que la fuite, bah, ne fait que repousser le problème. Ça ne l'enlève pas. Ça ne lui donne pas la victoire. Mais ça rend l'issue encore plus difficile. Beaucoup, beaucoup de personnes fuient les responsabilités et vont se réfugier dans ce qui paraît plus sûr, hein, dans quelque chose peut-être qui est même plus agréable à faire, plus simple, plus confortable. Et pourtant, la fuite se révèle souvent comme l'option, eh bien, la plus dangereuse, l'option qui va amener encore plus de difficultés dans notre vie. Alors oui, les épreuves, elles peuvent être ardentes. Mais comme j'ai dit, Dieu utilise les épreuves, pourquoi? Pour nous faire progresser, pour nous modeler, pour nous façonner à son image. Je l'ai déjà dit, hein, quand on regarde, hein, au récit de la Genèse, lorsqu'il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image, mais pas longtemps après, on voit le péché qui va venir détruire, corrompre cette image. Mais en Christ, Dieu veut rétablir cette image. Il veut faire en sorte que nous soyons de nouveau ce que nous étions censés être en tant que race humaine. Et beaucoup voient les difficultés et préfèrent fuir. Et lorsque l'on a ce genre de conseil-là, on se dit, ah, ben, c'est ce qu'il faut que je fasse. Rappelez-vous qu'il y a eu des moments, certes, où dans la vie de l'apôtre Paul, il était nécessaire pour lui de fuir. Et il y a eu d'autres situations, notamment où il savait que s'il allait à Rome, il allait être arrêté et vraisemblablement perdre sa vie à Rome. Et tout le monde lui disait, n'y va pas, hein, je sais que ça va être quelque chose de terrible pour toi. Mais il n'a pas fui cette responsabilité-là. Et pourquoi? Parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu pour lui d'aller à Rome. Les épreuves, oui, peuvent être ardentes. Mais à travers la sanctification et avec notre consécration à Dieu, eh bien, Dieu va nous façonner. Il va nous façonner encore davantage à l'image de Christ. Et il va nous amener à une foi plus grande et plus ferme. Donc, la véritable solution consiste non pas à fuir, mais à affronter. Affronter avec sagesse et avec courage, avec force. En fuyant de simples menaces, souvent nous risquons de tomber dans des dangers encore bien, bien plus redoutables. Et c'est pour ça que nous devons avoir ce discernement. C'est pour ça que nous devons veiller. L'esprit que Dieu nous a donné, On le sait, c'est un esprit de courage, hein, et l'appel que Dieu nous donne à travers les Écritures, c'est un discours pour nous de persévérer, c'est un discours pour nous de tenir ferme, c'est un discours de ne pas lâcher, hein, mais de continuer à combattre le bon combat de la foi, hein, demeurer ferme dans un même esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais lorsque nous faisons face à des circonstances qui sont adverses, lorsque nous faisons face peut-être à des personnes qui n'apprécient pas du tout notre foi, qui n'apprécient pas du tout que nous témoignions, il serait facile d'écouter la voix qui nous dit de fuir et d'ainsi tomber dans le découragement. On sait que ce n'est pas dans des périodes paisibles, sereines de notre existence que cet appel à tenir ferme retentit. Si Dieu nous dit de tenir ferme, c'est parce qu'il sait que la foi, la vie chrétienne, la marche avec Christ, c'est une vie où il y aura des difficultés, c'est une vie où il y aura de l'opposition, et nous devons tenir ferme et persévérer, et ne pas écouter cette voix qui appelle à la fuite. Donc c'est dans ces moments que nous devons user de discernement. Alors le discernement, et comment est-ce qu'on peut avoir justement du discernement? En ce moment, je recommençais à lire le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est cela. On voit la sagesse de Dieu, et cette sagesse qui nous est communiquée, cette intelligence qui nous demande d'avoir, elle va devoir se mettre en pratique. Et la sagesse, c'est ça, c'est de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire et ce que Dieu nous demande d'être. Et donc, avec cela, on va pouvoir développer ce discernement. À partir du moment où on connaît la volonté de Dieu pour notre vie, ce qui est bon et mauvais pour nous, eh bien, il est de plus en plus facile pour nous de discerner, tiens, si je prends cette voie-là, voilà ce que ça aboutirait, à quoi ça aboutirait. Et donc, de nombreux psaumes nous le rappellent, que oui, la vie, elle est difficile. Oui, il y a de l'adversité. Il y a des épreuves. Mais le danger, c'est que lorsque nous voyons ce chemin de la facilité, et qu'il serait facile de suivre cela, parce que nous voyons eh bien, ce à quoi Dieu nous appelle comme étant trop grand pour nous, ou bien face à ceux qui veulent nous empêcher de le servir, nous voyons cela comme de la facilité. Avant d'être ici, devant vous, j'ai eu toutes sortes de possibilités de servir le Seigneur dans d'autres domaines, dans d'autres ministères. Pour vous qui le savez, je suis missionnaire, je suis soutenu par des églises aux États-Unis. Mais pendant cette période où mon épouse et moi-même, nous étions en train de visiter les églises aux États-Unis, de présenter notre projet pour servir le Seigneur en France, on a eu des occasions où des personnes nous ont dit « Hey, est-ce que tu voudrais pas faire ceci plus tôt ?» On avait une église aux États-Unis, mais qui se trouvait proche du Canada et du Québec, avec des francophones. Et on m'a dit, est-ce que tu voudrais pas prendre ce ministère-là? Parce qu'ils étaient à la recherche d'un pasteur. Alors, la facilité de cela, de dire, ah bah oui, bah là, c'est tout bon. Parce que il faut comprendre aussi que pendant toute cette période où on recherchait du soutien, ça a été laborieux, ça a été long. Et donc, là, ça aurait été facile. Quand on voit que, le soutien financier n'arrive pas, là, il y a une option de facilité. Et puis, je peux faire aussi quelque chose pour le Seigneur. Vous voyez comment on peut facilement être leurré et que si on manque de discernement, on finit par rater la volonté de Dieu pour notre vie. Et même lorsque nous sommes arrivés ici en France, on a eu des églises qui se sont retrouvées sans pasteur et qui nous disaient « venez, pourquoi tu viendrais pas t'occuper de l'église ?» Et puis là, la facilité aussi, elle serait là, parce que c'était des églises avec un bâtiment qui était déjà payé, avec un groupe assez nombreux, et puis on aurait pu très bien prendre nos valises et se mettre là, et choisir cette option de la facilité. On a eu des situations aussi où même d'autres pasteurs en France disaient à Philippe et à moi-même, vous êtes deux, là sur Amiens, et puis ça avance pas, vous ferez mieux d'aller vous occuper des églises où il n'y a pas de pasteur. Hein, ou peut-être, même certains nous ont dit, hein, vous n'êtes pas des évangélistes, hein, j'ai jamais proclamé l'être, mais j'aurais dit, moi, je vais là où le Seigneur m'a demandé d'être, et là où il y a des personnes qui ont besoin. Et je crois que, voilà, le danger, souvent, c'est que on a des options qui s'offrent à nous, qui nous paraissent faciles. Mais si on néglige de comprendre la volonté de Dieu, et si on manque de discernement, on finit par ne plus être dans la volonté de Dieu. Et on peut se dire et se rassurer, mais je fais quelque chose pour le Seigneur, et pourtant j'aurais vraiment raté la volonté de Dieu. David, il parvient à discerner ici, hein, derrière ce message, ce conseil de fuite, il discerne ce à quoi ça aboutirait. Ça serait d'aller dans la mauvaise direction. Hein, dans le verset 2, il parle de ces méchants qui bandent l'arc et qui ajustent leurs flèches sur la corde, qui sont prêts à tirer, qui sont là dans l'ombre pour tirer, hein, sur ceux qui ont le cœur droit. Et cette fuite, oui, elle peut facilement paraître séduisante parce que ça simplifie la situation. Je crois que chacun d'entre nous, nous préférons des situations faciles que des situations compliquées. Je crois que c'est naturel. Mais la vie, elle n'est pas faite que de situations faciles. Et c'est pour ça qu'on doit rester vigilant. Parce que certains vont être un peu à l'affût. Hein, l'adversaire, il est à l'affût. Hein, il regarde. Il est prêt à sauter sur celui qui hésite par rapport à la volonté de Dieu. Il est prêt à sauter sur ceux qui sont dans ce conflit de j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Je ferais mieux de prendre cette voie-là. Je ferais mieux de fuir. Mais ici, les conseils que David y reçoit, ce sont de mauvais conseils. Et David souligne cela par cette question, comment est-ce que vous pouvez me dire ça? Son objectif de vie, c'est en l'Éternel que je recherche refuge. Si David n'avait pas été vigilant, ses conseillers, ils auraient pu détourner son regard vers les obstacles et les ennemis au point d'éloigner son cœur de Dieu. Parce que souvent, ça aussi, c'est ce que l'ennemi veut faire, c'est que nous regardions à la difficulté, que nous regardions à l'épreuve, au lieu de regarder à celui qui peut nous aider à traverser ces difficultés et ces épreuves. Et c'est là où nous devons nous méfier, hein, de tels conseils. Des conseils qui vont nous amener à dévier notre cœur et notre esprit loin de Dieu. Nous amener à nous focaliser sur nous-mêmes, sur notre situation. Hier, on rigolait un peu dans notre discussion avec Nathalie, on a mentionné Calimero. Hein, Calimero, hein, c'est ce petit poussin noir qui, pour lui, la vie était trop injuste. Dès qu'il lui arrivait quelque chose, c'est trop injuste. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui réagissent comme ça. Qui estiment que bah, leur vie, elle devrait être facile. Mais ils oublient ce que Christ a dit. C'est un chemin étroit, rocailleux. Et beaucoup réagissent avec cette mentalité de c'est trop injuste. Et avec ça, on oublie facilement celui qui nous accompagne dans ce chemin. On oublie facilement l'aboutissement de ce chemin-là. Et là, lorsque ces situations arrivent, dans cette porte d'entrée au découragement, elle est grande ouverte. Elle est grande ouverte. Et c'est là où nous devons donc être vigilants et user de discernement. Je crois que l'image, une des images les plus frappantes dans les Écritures par rapport à cela, pour illustrer cela, c'est lorsque les disciples sont sur cette mer agitée et voient le Seigneur marcher sur l'eau et Pierre qui est prêt, il sort de la barque pour marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau. Quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux. Mais à partir du moment où il voit les vagues autour de lui, des vagues fortes, il voit cette tempête, il commence à s'enfoncer. Et je crois que cette image-là, c'est précisément ce qui se passe là. C'est que si on n'a pas notre regard fixé sur le Seigneur et sur ce qu'il veut faire pour nous et ce qu'il est capable de faire pour nous, mais qu'on se laisse submerger par la difficulté, l'épreuve, ceci, cela, c'est là où nous finissons par nous enfoncer spirituellement. Parfois, nous devons comprendre la situation que nous vivons, eh bien, nous devons la soumettre eh bien, à la sagesse des Écritures, à la soumettre à la volonté de Dieu, pour que nous puissions éviter le découragement. Dans les Écritures, pardon, il y a une autre illustration assez frappante de ce qui peut se passer lorsque on écoute la voix du découragement ou lorsque l'on tient ferme. Dans le livre de Deux Chroniques, au chapitre 20 et verset 12, nous avons l'exemple de Josaphat, qui, à l'aube de la bataille la plus redoutable qu'il a dû mener, face à des ennemis imposants, Moab, Amnon et Édom, on voit ce roi Josaphat qui va user justement de discernement et qui va s'en remettre entièrement à l'Éternel. Il dit, « Notre Dieu, n'exercerais-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons quoi faire. » Le fait de ne pas savoir quoi faire face à cette situation-là, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand on s'arrête à ça. Josaphat, il continue. « Mais nos yeux sont sur toi. » Voyez la différence ? La différence de « on peut regarder à la situation et c'est terrible, comment on va s'en sortir et c'est pas possible, Dieu, où es-tu ?» Et cette détermination à la fois de Josaphat, de David, « Mon refuge, c'est en l'Éternel. Mes yeux sont sur toi. » C'est ça la différence. C'est cette décision ferme de s'appuyer sur Dieu, sur sa bonté, sur sa grâce et sur son plan pour nous. Assurément, le regard de Josaphat se portait dans la bonne direction. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive trop facilement d'éloigner notre regard du Seigneur ? Pourquoi est-ce qu'il nous arrive trop facilement de rester fixés sur l'adversité et sur les obstacles ? Quand on voit la suite du récit de cette situation de Josaphat, on lit au chapitre 20, dans les versets 22 et 27, que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et plus loin, donc, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux. Pourquoi ? Parce que l'Éternel avait agi. Mais surtout parce que un roi tel que Josaphat avait pris cette ferme résolution de « Nos yeux sont fixés sur toi ». On sait que cette situation-là, pour nous, on ne sait pas quoi faire. On ne voit pas comment nous, on peut gagner. Mais nos yeux sont fixés sur toi. C'est pour ça que nous, également en tant que chrétiens, on va pouvoir entendre ces gens qui vont donner ces conseils-là. Mais nous ne devons pas forcément écouter ce qu'ils ont à dire. Nous n'avons pas à les suivre. Parce que tout conseil que nous allons recevoir, eh bien, nous devons les passer au crible du discernement, de la sagesse, et de garder les yeux fixés sur l'Éternel. Tout conseil qui va nous amener à fuir le combat, parce que par peur de l'adversaire, par peur d'avoir mal, par peur de souffrir, ça va amener notre attention à se concentrer justement sur les dangers, sur tous ces rapports de force. Mais lorsque nous nous appuyons sur ce que la parole de Dieu déjà nous enseigne, lorsque nous nous appuyons sur la sagesse des Écritures, lorsque nous usons de ce discernement et que nous voyons que oui, on est faible face à cette situation-là, mais si nous regardons à la chose comme l'apôtre Paul, je suis fort. Je suis fort en Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est encore une fois là la différence pour nous. C'est que on peut faire face à ces situations, mais si on écoute la voix de la chair, si on écoute la voix de ceux qui, même bien intentionnés, donnent ces conseils de fuir, de ne pas faire, de pas faire face à ces situations-là, nous rappeler ce que Dieu a été capable de faire lorsque des hommes, des femmes ont gardé leur regard fixé sur le Seigneur, ont accepté l'adversité, ont accepté les épreuves, les difficultés. Et ils partirent joyeux. David a su discerner un certain fatalisme ici dans le discours de ses conseillers. Il a su montrer combien ce qu'il disait n'avait pas de sens, c'était incohérent. Quand on connaît le Seigneur, ça n'a pas de cohérence, ce genre de discours-là. Et donc au verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Lorsqu'on a des personnes qui sont pessimistes, qui sont cyniques et qui cherchent à nous amener vers la fuite, comme ceux-ci, ont cherché à amener David vers ce sentiment de fatalité, de défaite, tout ce qui te reste à faire, c'est de fuir vers les montagnes comme un oiseau. C'est tout ce que tu as à faire. Non ! David a décidé, je vais m'appuyer sur l'Éternel, c'est lui mon refuge. Et c'est sûr que, lorsqu'on regarde à ce monde dans lequel nous vivons, lorsqu'on voit les reportages dans les journaux télévisés, lorsqu'on lit les articles dans les différents journaux, et on voit l'horreur qui existe dans ce monde, des choses que nous pensions peut-être être révolues, où on pensait que notre société a quand même réussi à surmonter ces choses-là, et puis ça nous revient dans la face comme un boomerang. Ce que l'on voit, c'est un monde qui est dépourvu. Dépourvu de bon sens, dépourvu de repères moraux. Et là, justement, où devrait régner la droiture, la loyauté, le sens du devoir, la responsabilité, le courage, ou l'abnégation, la décence, etc., eh bien, on a de plus en plus de ce genre de conseils-là. Fuis. Fuis. Ah, t'as des amis qui ne vont pas dans le sens de tes... de ce que toi tu aimerais faire, ou il s'oppose peut-être à ce que tu envisages de faire parce que il pense que ça serait pas une bonne chose pour toi, et on te dit fuis de telle personne. Lorsqu'on te dit que quand tu es dans une église où le pasteur va prêcher la parole de Dieu et dans son discours, eh bien ça va souligner des péchés qui existent dans la vie des chrétiens et des personnes qui entendent cela et qui, au lieu de se demander « qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ?» au lieu de sonder leur propre cœur, ils disent « Ah, mais ça, c'est un discours négatif, c'est un discours haineux. » Et ils fuient. Ça, c'est ce que l'on voit de plus en plus dans notre société, c'est cette idée de fuite. Alors certes, il y a des situations où on doit être vigilant et avoir du discernement et savoir qu'on ne doit pas se mettre dans des situations qui vont être parfois périlleuses pour nous spirituellement. Mais quand on regarde les choses et on les analyse à la lumière des Écritures et qu'on voit de l'adversité, on voit des difficultés, on voit des épreuves, plutôt que de suivre tout de suite cette option de la fuite, cherchons refuge dans l'Éternel. Il est facile pour un chrétien de s'imprégner d'un sentiment de fatalisme, d'avoir ce sentiment que il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas changer les choses, ça n'arrivera jamais, ça n'aboutira jamais. Et on finit par se décourager donc face aux circonstances, et on finit aussi par rejeter les conseils qui nous viennent, par contre, de la parole de Dieu. Ces encouragements à tenir ferme, ces encouragements à persévérer. Ésaïe 58, verset 11, nous dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » C'est-à-dire que peu importe ce qui va se produire autour de moi, quand on s'appuie sur ce que Dieu nous dit, lorsque l'on s'appuie sur ses promesses, on peut être au milieu d'un désert aride, nous avons toujours cette source d'eau rafraîchissante en l'Éternel et dans sa parole. On ne va pas pouvoir se libérer du découragement si on ne sait pas distinguer les mauvais conseils. On ne va pas pouvoir se libérer de ce découragement si on écoute ceux qui nous tirent vers le bas au lieu d'écouter ceux qui nous encouragent à tenir ferme, à suivre la volonté de Dieu. David, lui, il a su entendre les conseils des hommes sans nécessairement les écouter, sans nécessairement les suivre. Et ça, c'est ce qui a changé pour lui. C'est ce qui a fait cette différence dans la vie de David. Permettez-moi juste encore de dire une dernière chose avant de conclure. C'est que, oui, pour nous, nous devons écouter les conseils de Dieu. Hein, écouter, encore une fois, c'est, oui, on entend les choses, on lit les choses, mais écouter, c'est mettre en pratique. Hein, c'est un acte qui est actif, hein, qui nous amène à agir. Et là, on arrive donc au cœur de ce psaume. La réponse pleine de sagesse de David, celle qui l'oppose à ses mauvais conseillers. David y répond à ce pessimisme, à ce fatalisme, en posant cette question, comment pouvez-vous me dire ? Mais finalement, au verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il ? Et à partir du verset 4, voilà ce qu'il expose au sujet de l'Éternel. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Là, ce que l'on voit, c'est une prise de position de David. C'est une prise de position par la foi. Par la foi, il déclare ces choses. Par la foi, il a dit, je cherche en l'Éternel un refuge. Par la foi, il a demandé, comment vous pouvez me dire cela ? Par la foi, il répète, qui est l'Éternel pour lui ? Donc David exprime ici une indignation par rapport à ses conseillers, par rapport à cette idée hein, de fuir devant l'adversité, au lieu de chercher refuge en l'Éternel, au lieu de chercher la force en l'Éternel. Et les psaumes regorgent hein, de ce genre de discours, hein, que l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse, hein, c'est dans lui hein, que j'ai mon refuge. Et il y a plusieurs termes en hébreu, plusieurs mots en hébreu qui sont traduits, hein, qui traduisent cette pensée-là. Pardonnez-moi, mon hébreu, c'est pas terrible. Hein, mais il y a le terme shaza qui signifie donc chercher refuge. Hein, c'est ici le mot que David il emploie dans ce psaume et qui a l'idée de chercher la protection. De chercher la protection. Et donc David, au lieu de courir vers les montagnes, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche en Dieu son refuge. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que le Seigneur nous dit au sujet de ceux qui, un jour, vont chercher à se cacher dans les montagnes, mais les montagnes ne pourront pas protéger. Les montagnes ne peuvent pas protéger comme l'Éternel protège. L'autre terme que nous voyons dans les psaumes, c'est le mot batash qui signifie se reposer entièrement sur quelqu'un, sur quelque chose, hein, se confier. Et dans le psaume 9, hein, nous avons ce mot qui est employé hein, lorsque David dit « l'Éternel est un refuge pour l'opprimé ». Et on sait que pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils voient le christianisme comme une sorte de béquille. Ils voient le christianisme comme quelque chose pour les personnes qui sont faibles. Ils négligent de comprendre ce que Dieu accomplit et qui il est. Les hommes se confient dans les hommes. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, leur vie est menée de manière bien différente. La paix, la joie que Dieu apporte lorsque nous vivons par la foi est bien différente. Soit nous choisissons de nous confier en l'homme, soit nous choisissons de nous confier en celui qui peut renouveler nos forces, hein, qui nous rend semblables... qui rend notre vie semblable au vol de l'aigle. Vous connaissez ce passage d'Ésaïe 40, versets 30 et 31, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Mais pour avoir cela, c'est quoi ? je dois me confier en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Et certainement, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les incroyants, voient les chrétiens comme des personnes faibles, ayant besoin de Dieu comme d'une béquille. Ben, moi, je dois vous dire, je préfère être faible ainsi aux yeux du monde et m'appuyer sur Dieu, même si vous le voyez comme une béquille, plutôt que de ramper dans la boue du péché parce que mes jambes sont brisées et je me rends même pas compte que mes jambes sont brisées. Je préfère avoir Dieu comme béquille que de rester dans la boue du péché. Je préfère la vie que Dieu m'a appelé à vivre. Je préfère ce qu'il me donne comme force, comme sagesse à travers sa parole, à travers l'Esprit Saint, que de suivre la voie de l'homme. Il y a un autre terme qui est également employé, on le trouve dans le psaume 22, ce psaume messianique, c'est le terme nalal. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Hein, on sait que ce psaume 22, c'est un psaume prophétique, un psaume messianique, où on voit les souffrances vécues par loin de Dieu, par le Jésus-Christ dans sa vie. Mais voilà, ce terme de s'appuyer entièrement. C'est qu'à un moment donné, dans notre vie, nous devons arriver à ce moment où je choisis de m'appuyer sur Dieu et sur lui seul. D'écouter ses conseils et ses conseils seuls. D'écouter sa sagesse et sa sagesse seule. C'est en l'Éternel que je cherche refuge. Ah oui, le monde va s'appuyer sur toutes sortes de choses. Toutes sortes de philosophies, de pensées humaines. Certains vont s'appuyer sur leurs richesses, les sécurités matérielles. Certains vont s'appuyer sur, voilà, j'ai une bonne carrière professionnelle et c'est tout ce qu'il me faut pour ma vie. On peut comprendre cela de gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand il s'agit de chrétiens qui poursuivent ces choses-là et qui croient que ces choses-là vont les aider à avoir une bonne vie, eh bien, ils ont manqué de discernement et se sont laissés leurrer par le monde. Et c'est triste de voir certains chrétiens qui vont suivre la pensée du monde et qui vont même encourager d'autres chrétiens à suivre cette voie-là. Nous devons veiller. Oui, veiller, c'est l'appel que nous avons dans les Écritures. Veiller, tenir ferme, d'écouter la voix de Dieu. Certains entendent la voix de Dieu. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont entendu le message plein de fois. Ils connaissent l'enseignement. Mais ils choisissent de ne pas écouter. Et lorsqu'on choisit de ne pas écouter, c'est là où tout se complique encore davantage. David, il a pris cette ferme résolution et cette détermination que nous voyons dans ce psaume. C'est aussi par rapport à son vécu, par rapport à ce que l'Éternel avait déjà accompli dans sa vie et par sa vie, les différentes difficultés qu'il avait déjà connues. Ah, on ne sait pas trop quand il a écrit ce psaume-là. Et même quand il était jeune et qu'il était berger, il s'appuyait sur la force de l'Éternel pour combattre les animaux sauvages, hein, ceux qui essaieraient de prendre de ses brebis. Il se confie en l'Éternel. Et pourquoi ne pas le faire nous aujourd'hui? On a déjà vu, hein, il y a quelque temps de cela, qu'on a en Christ un intercesseur, on a en Christ un souverain sacrificateur, on a en Christ quelqu'un qui veille sur nous. Et ça, c'est ce que David y réaffirme ici. L'Éternel, il est sur son trône. Et de son trône, il voit tout. Ses yeux regardent. Il connaît notre situation. Il voit ceux qui ont le cœur méchant. Il voit ceux qui ont le cœur juste. Et David s'appuie donc sur cela. Il s'appuie sur le fait que nous avons un Dieu qui est juste et qu'un jour, sa justice va s'appliquer dans son entièreté. dans son entièreté. Alors pour conclure, rappelons-nous que le découragement, il peut guetter le meilleur d'entre nous. Et nous devons veiller. J'ai eu des moments de découragement aussi dans ma vie. Et je suis conscient que lorsque je suis cette voie du découragement, bien je ne suis plus en train de m'appuyer sur l'Éternel. Mais dans les moments où l'Éternel m'aide et me ressaisit, et que je place ma confiance en l'Éternel, que je m'appuie sur lui, sur sa force, eh bien, ces différentes options de facilité, elles sont... Non. On les voit d'une manière tellement limpide pour ce que c'est, que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu nous aide. Que, ici, à travers ce psaume, David, il nous montre cet exemple. Cet exemple, oui, de résilience face à l'adversité, mais de cette détermination. Je choisis de placer ma foi en Dieu. Je choisis. C'est un choix. Et c'est chaque jour pour nous un choix de vivre selon ce choix-là. De vivre selon ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Alors nous savons comment nous pouvons discerner le danger du découragement. Nous savons quand eh bien, les conseils nous amènent vers le bas et non plus vers le haut, quand ces conseils nous éloignent de l'Éternel au lieu de nous encourager à nous appuyer sur l'Éternel, on sait que ces conseils vont en réalité être mauvais. Ils peuvent parfois avoir une tonalité qui semble juste, mais quand on prend le temps d'analyser ces conseils à la lumière des Écritures et à la lumière de la volonté de Dieu pour notre vie, on voit. On entend ces conseils, mais on ne les écoute pas. Entendre les conseils humains sans forcément les écouter, écouter tout le conseil de Dieu, c'est ce que nous sommes appelés à faire et à vivre. Et si nous voulons éviter de tomber dans le découragement, si nous voulons éviter ces pièges que parfois, comme je l'ai dit, parfois c'est des personnes bien intentionnées qui nous donnent de tels conseils. Il faut nous rappeler de l'exemple de David, de cette détermination. Comment est-ce que vous pouvez me dire de fuir? Je crois qu'il aurait pu ajouter, comment est-ce que vous ne me dites pas de « fortifie-toi en l'Éternel » et « bon courage » Comment vous ne dites pas « le Seigneur est avec toi » Comment vous ne dites pas, vous ne rappelez pas ces paroles de l'Éternel? Que notre foi donc se tourne vers le Seigneur, et que nos regards soient constamment fixés sur lui, dans ces moments de doute, dans ces moments d'adversité, dans ces moments d'épreuve dans notre vie. Parce que jusqu'à présent, dans ma vie, quand j'ai écouté les conseils de la parole de Dieu, ça a été toujours pour moi une bénédiction. Ça a été toujours pour moi un moment où le Seigneur m'a amené à grandir. Par contre, le contraire est tout autant vrai. Ces moments où j'ai écouté ma chair, ces moments où j'ai écouté les conseils du monde, m'ont amené finalement vers davantage de détresse. Là où on me promettait une solution facile, ça a compliqué les choses davantage. Donc sachons reconnaître, ayons ce discernement, puisons dans la sagesse de Dieu, gardons les yeux fixés sur lui pour éviter ce piège du découragement.